Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau carnet de région. Cette semaine et jusqu'à fin décembre, c'est 48 FM qui vous accompagne tout au long de votre magazine. Au sommaire, la campagne de vaccination contre la grippe bat son plein dans la région Occitanie. Le professeur Jacques Rennes, infectiologue au département des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Montpellier, nous en dit plus sur ce fameux vaccin. Des travaux à Montpellier, explication de Jean-Philippe Bonnet, responsable méditerranéen du réseau de transport d'électricité sur les enfouissements de câbles à haute tension. Le chemin urbain 5 tente de se rajeunir en Lozère. Après sa traditionnelle réunion annuelle, les adhérents misent à présent sur une communication plus active et une commercialisation numérique. Enfin, le département de l'Hérault a été récompensé au Iter Vitis Awards pour son nouveau concept permettant aux visiteurs de découvrir une région en passant par ses domaines viticoles. Une bonne nouvelle pour Claude Barral, vice-président du conseil départemental et chargé du tourisme.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
En France, plus de 6,5 millions de personnes âgées de 18 ans ou plus sont concernées par la campagne de vaccination contre la grippe. Une campagne qui devrait durer jusqu'au 31 janvier prochain. Une nouveauté cette année, certains pharmaciens participent à une expérimentation de vaccination dans leur officine. Le professeur Jacques Rennes, infectiologue au département des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Montpellier, nous en dit plus sur ce fameux vaccin.
La grippe reste une maladie fréquente et potentiellement sévère qu'on peut, dans une certaine mesure, s'en prévenir grâce à la vaccination, dont l'efficacité est de l'ordre de 50%. Ce n'est pas une efficacité complète, mais ça permet de réduire non seulement la fréquence, mais aussi la gravité. Et ça concerne en particulier des populations dites à risque, qui sont les personnes qui ont une pathologie chronique, comme une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, mais aussi les personnes de 65 ans et plus, et aussi les femmes enceintes. Et ces trois populations ont normalement reçu un bon qui leur permet d'obtenir auprès de leur pharmacien, sans passer maintenant par la case médecin généraliste, peuvent obtenir donc le vaccin, et même dans beaucoup de pharmacies, puisque c'est expérimental en Occitanie, avoir l'injection du vaccin par le pharmacien si c'est possible. Le vaccin évolue puisqu'il s'adapte aux souches potentiellement en cause dans la saison qui va venir. Et en particulier, on est passé techniquement à un vaccin quadrivalent pour la majorité des vaccins, c'est-à-dire orienté vers 4 souches vaccinales pour essayer de couvrir le plus possible les souches qui risquent de circuler et de déterminer cette pathologie épidémique qui intervient donc entre décembre et mars. Cette vaccination a l'avantage d'être particulièrement anodine en termes d'effets indésirables, donc il n'y a pas de danger et donc on a tout à gagner à se faire vacciner, et on peut éventuellement aussi, si on est dans des situations qui ne sont pas les situations décrites, être vacciné avec un circuit habituel en passant par son médecin généraliste qui vous fait une prescription et vous pouvez avoir cette vaccination qui est utile.
En France, durant la saison hivernale 2017-2018, 2,4 millions de consultations pour symptômes grippales ont eu lieu. Un peu moins de 13 000 personnes sont décédées de la grippe, dont 85% âgées de 75 ans et plus. En Occitanie, plus d'1 million de personnes fragiles sont concernées et doivent se faire vacciner sans attendre. Un sujet réalisé par Anne Pérez et Amélie Salès pour Radio Aviva. Le réseau de transport d'électricité fait actuellement des travaux entre Castelnau-le-Lez et le Millénaire à Montpellier dans l'Hérault. Des travaux d'enfouissement de lignes haute tension pour récupérer des terrains constructibles, les explications de Jean-Philippe Bonnet, responsable méditerranéen de RTE.
C'est un projet de mise en souterrain d'une ligne électrique existante. On est dans le cas typique d'une ligne électrique qui a été construite dans les années 80 pour assurer l'alimentation électrique de l'agglomération de Montpellier. Quand elle a été construite, elle était au milieu des vignes et puis elle a été rattrapée par l'urbanisation rapide de la métropole, notamment par les nouveaux quartiers du Millénaire, de Port-Marianne ou bientôt la nouvelle zone d'Eureka. Et donc la métropole de Montpellier, pour permettre l'extension de ses quartiers et améliorer aussi l'environnement urbain, nous a demandé d'étudier et de réaliser la mise en souterrain de ces lignes. C'est une opération complexe parce que le secteur est déjà construit. Donc nous avons dû étudier finement les possibilités de passage dans des sous-sols où se trouvent déjà des réseaux d'eau ou d'autres réseaux électriques qui sont les réseaux d'Enedis qui irriguent finement l'ensemble des immeubles et des habitations. Et dans certains cas, nous sommes aussi obligés de réaliser des micro-tunnels pour passer par exemple sous des carrefours ou sous des cours d'eau. Donc c'est une opération qui est en cours, qui se fait par tronçons en cherchant à réduire au maximum la gêne pour les gens qui vivent et qui travaillent dans ce secteur. Et c'est la première étape nécessaire, la réalisation de ces lignes souterraines, avant de pouvoir démonter les lignes aériennes, qui sera la dernière étape de ce grand projet.
Ça va supprimer quand même de nombreux kilomètres de câbles perchés dans les hauteurs, et puis également de nombreux pylônes, Jean-Philippe Bonnet.
Oui, l'objectif, c'est de supprimer au total 12 km de lignes aériennes à haute et très haute tension et de démonter 36 pylônes dans un secteur qui va de Castelnau-le-Lez jusqu'à Port-Marianne, aux abords de l'autoroute.
Les prochaines étapes sont lesquelles ?
Les prochaines étapes consistent à poursuivre les travaux de mise en souterrain par tronçon, secteur par secteur. Tout cela va nous amener jusqu'en 2019, à l'été 2019. La mise en service finale des lignes souterraines est prévue pour début 2020. On va connecter cette ligne aux nœuds électriques déjà existants et ça nous permettra, dans le courant de l'année 2020, de réaliser le démontage des lignes aériennes.
Alors, ceci est très important quand vous dites nœuds électriques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir raccorder sans couper la ligne existante.
Exactement. RTE est une entreprise de service public dont la mission est que le courant passe 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et nous veillons à ce que l'électricité ait toujours deux chemins possibles sur notre réseau pour aller d'un point à un autre. Donc nous pourrons réaliser l'ensemble de ces travaux sans aucune interruption pour la clientèle.
Jean-Philippe Bonnet, responsable de RTE Méditerranée, au micro de Cédric Combé pour RCF Maguelone Hérault. Les adhérents du chemin urbain 5 se sont rassemblés jeudi dernier pour une réunion annuelle. Après des résultats plutôt positifs pour 2018, l'association se prépare maintenant à l'année 2019. Le chemin de 329 km fêtera alors ses 5 ans d'homologation. Les adhérents souhaitent que soit menée une étude sur de possibles améliorations en partenariat avec le département et la communauté de communes. Si une trentaine de réservations sont déjà assurées pour ce printemps, l'association souhaite élargir son public et commercialiser le chemin de randonnée avec de nouvelles formules. Jean-Paul Peytavin, président du chemin urbain 5.
Donc, autre point supplémentaire qu'on voudrait faire pour 2019, c'est arriver à commercialiser notre chemin via Direct Lozère, c'est-à-dire une place de marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens pourront réserver par Internet les hébergements, les transports de bagages, absolument tout. Par Internet, on va leur faire des packages clés en main de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine. On ne fera pas l'intégralité parce que c'est trop compliqué, c'est trop long et ça serait trop cher. On va essayer de se concentrer dans un premier temps sur les week-ends, 2 jours, ou les week-ends à rallonge, 3 jours, avec des thèmes. Le chemin urbain 5 en Aubrac, le chemin urbain 5 dans les Cévennes, etc., etc. Nous voudrions toujours essayer de rajeunir un peu l'image des randonneurs et à essayer d'attirer des gens de plus en plus jeunes.
Le chemin urbain 5, inspiré des pérégrinations du pape lozérien, offre un camaïeu de paysages impressionnants de l'Aubrac au Gard en passant par les Cévennes pour venir s'achever à Avignon. La vigne devient encore un peu plus l'identité hérotaise. Le département de l'Hérault a été récompensé au Hitter Vitis Awards le 20 novembre pour le concept de l'Enotour. Cette initiative départementale invite les visiteurs à découvrir le territoire, paysages, événements, activités à partir de domaines viticoles sélectionnés pour la qualité de leur accueil. Les résultats d'une enquête menée auprès des vacanciers démontrent que 20% des visiteurs dans l'Hérault ont envie de mieux connaître l'univers viticole. Pour Claude Barral, vice-président chargé du tourisme, cette initiative réunit la culture viticole et l'ensemble des activités touristiques.
20% de la clientèle touristique de l'Hérault est intéressée par le no-tourisme. Donc 20%, c'est pas un petit pourcentage, mais il va de soi que notre politique de no-tourisme, elle est reliée à l'ensemble des politiques touristiques. C'est-à-dire que Le touriste, il est pluridimensionnel. Il peut avoir envie d'aller le soir déguster du vin dans un mas, mais en même temps d'avoir fait du VTT dans l'après-midi, ou du canoë-kayak, ou de la varappe, ou de la randonnée, ou être allé à la plage, etc. Donc, ce que nous faisons avec le no-tour, on le relie à l'ensemble des activités touristiques. Je pense aussi au spectacle culturel, Montpellier Danse, le Printemps des Comédiens, le Jazz à 7, toutes les fêtes votives, les traditions camarguaises, etc. Donc, on s'appuie sur les offices du tourisme pour valoriser cette politique. Évidemment, on fait référence aussi à l'ADN de l'Hérault, qui est la viticulture, qui a structuré la vie des gens depuis des siècles, qui a structuré les paysages viticoles. C'est l'ADN de l'Hérault. Donc, on relie aussi à la fois l'attrait touristique avec l'inconscient collectif, la culture collective de ce territoire héraultais. Nous avons passé une convention avec le guide du Routard, qui va sortir l'année prochaine, en 2019, son premier guide no touristique de France, qui a été très intéressé par ça. Le département de l'Hérault, il faut savoir que c'est la première destination touristique des Français. C'est le quatrième département de France pour le nombre de nuitées après le Var, la Côte d'Azur et les Bouches-du-Rhône. On compte d'ailleurs accéder au podium, c'est-à-dire on compte passer devant les Bouches-du-Rhône pendant ce mandat. En tout cas, c'est ce qu'on m'a assigné comme mission. Le no-tour n'est qu'un élément de la politique touristique du département de l'Hérault. Mais c'est un élément important parce que il fait appel à la substantifique moelle de ce département, quoi.
Le concours des Heater Vitis Awards valorise les initiatives touristiques privées et publiques. Le Grand Prix est décerné par l'association Loi 1901 Heater Vitis France, qui accompagne et fédère les régions viticoles. Un sujet d'Isabelle Bourdet pour RPH Sud.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Merci d'avoir suivi ce carnet de région. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Une réalisation des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.